l'histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget. Cet été, un ami, connaissant mon goût très prononcé pour les romans historiques ainsi que pour les policiers, m'a très vivement recommandé de lire un livre qui, m'a-t-il dit, correspondait parfaitement à ces deux critères. Je partais en vacances, j'ai donc rajouté ce livre à ma valise déjà bien remplie, et à peine arrivée à ma destination, je me suis plongée dans le roman de Christophe Ferré intitulé « La révélation de Chartres ». Je me trouvais à quelques 1500 km de la capitale de la Beauce et de sa merveilleuse cathédrale, mais dès les premières phrases lues, cette distance a brusquement disparu. Et je me suis retrouvée dans les entrailles de la cathédrale en compagnie d'une jeune archéologue américaine. Et je n'avais qu'une hâte, continuer ce roman captivant du début à la fin. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur de ce roman. Bonjour Christophe Ferré.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Grand Ciel. Je suis très heureuse de vous recevoir dans notre émission Histoire d'en savoir plus, qui, comme son nom l'indique, a pour but de nous apprendre des choses. Et ce livre, je vous le garantis, va apprendre à nos auditeurs énormément. Et sur la cathédrale, et sur beaucoup d'autres sujets la concernant. Christophe Ferré, j'ai appris que vous étiez natif de notre région.
Absolument.
Vous pourriez nous dire quelques mots sur votre enfance et jeunesse en Eure-et-Loire, rapidement.
Ma famille est originaire d'Illiers-Combray, le village de Proust. J'ai séjourné là-bas de nombreuses reprises. J'ai passé des vacances. Une autre partie de ma famille est originaire de Chartres, de cette ville magnifique, chère à mon cœur.
Ah bon, d'accord. Donc, vous connaissez Notre-Dame de Chartres, et peut-être aussi un peu par l'intermédiaire de votre oncle paternel, Philippe Ferré.
Philippe Ferré est effectivement...
Qui officiait longtemps à la cathédrale.
A officié longtemps à la cathédrale, et c'est un spécialiste de ce monument.
Cette cathédrale, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais que Diane de Margerie appelle la Dame de Pierre.
Oui, je connais Diane de Margerie, j'ai dîné avec elle récemment et nous avons longuement échangé à ce sujet. Comme moi, elle est amoureuse de la plus belle cathédrale du monde, j'hésite pas à le dire.
Je pense que je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi avoir écrit ce roman? Comment l'idée en a germé en vous?
Ça faisait des années que j'y pensais. Le monument, la ville étaient ancrés en moi de façon permanente. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire sur Notre-Dame de Chartres. C'est arrivé comme ça, un matin, et je me suis mis à écrire et j'ai publié ce thriller que vous venez d'évoquer, La Révélation de Chartres, et qui connaît un succès phénoménal. Ouais. J'en suis très heureux.
Formidable, hein, et j'espère bien que nos auditeurs vont penser la même chose. En le lisant rapidement, vous êtes normalien, comme on dit, au présent ou au passé, quand on a été normalien?
Oui, au passé.
Voilà, vous l'avez toujours, de toute façon, c'est un acquis. Hein. Et que vous étiez, et depuis un certain nombre d'années, donc vous vouliez toujours écrire,
hein, ou... Oui, j'écris depuis 20 ans, je publie depuis 20 ans, j'ai obtenu le Grand Prix de l'Académie française de la Nouvelle il y a quelques années pour une histoire se déroulant le 11 septembre 2001. Mmh, mmh. J'ai publié de nombreux romans.
Je vais vous en citer quelques-uns quand même. Mais bon, effectivement, La Révélation de Chartres n'est pas du tout votre premier roman, comme a écrit un de nos confrères dans un journal local que j'ai lu. Donc c'était une erreur parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout votre premier ouvrage. Mais qu'est-ce que vous avez écrit auparavant? Vous avez commencé par quoi? Ou quelle était votre première parution?
Mon premier livre publié s'appelle « La chambre d'amour » et se déroule dans le Pays Basque. Et il a été adapté à la radio, on est à la radio alors on peut le dire. Et
oui, bien sûr.
Sur France Inter et France Culture, il a obtenu le Grand Prix international de la fiction radiophonique.
C'est formidable ça. Et donc, alors vous ne disiez pas, mais moi je peux rajouter que ce prix a été obtenu finalement face à pas n'importe qui, à Nancy Houston.
Nancy Houston était en face de moi et il y a eu un vote secret. Je ne sais pas combien chacun a eu de voix, mais c'est moi qui ai obtenu le prix.
Et alors, c'était comme une pièce de théâtre? Ça a été lu dans le...
Alors, c'est une adaptation de mon roman. Mm-hmm. C'est moi qui ai fait l'adaptation. Donc, c'est une lecture à plusieurs voix. Un homme, une femme, plus un narrateur extérieur à l'histoire. La réalisation était de Christine Bernard-Sugy et elle a fait un travail magnifique avec beaucoup de musique, beaucoup de bruitage, beaucoup de sons.
On peut toujours l'écouter, ça se trouve quelque part.
Je pense qu'on peut le trouver sur Internet.
Sur les réseaux,
je l'ai chez moi, mais je pense qu'on peut le trouver sur Internet et ça a été diffusé dans toute la francophonie.
Mmh. Alors je voulais dire que vous n'étiez non seulement romancier, mais dramaturge aussi, puisque, bon d'accord, là ça a été adapté, votre roman pour la radio, mais vous avez écrit, je pense, pas mal de pièces de théâtre.
J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, il y en a une qui a été jouée au Théâtre du Rond-Point, une autre au Théâtre de Chaillot. Oui, c'est une passion d'écrire pour le théâtre également.
Donc, ce Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française en 2010, vous disiez, le titre était le 11 septembre, c'est ça? Donc, c'est en relation avec ces événements tragiques?
Le titre, c'est La photographe. Mm-hmm. C'est l'histoire d'une photographe qui a son amant coincé dans les tours et qui essaye de le sauver. Mmh. Et ils communiquent par téléphone, donc il y en a un qui est en train de brûler et l'autre qui, par tous les moyens, essaye de faire en sorte qu'il échappe à l'enfer.
Mmh. Ouais, c'est pas...
Et je me suis mis dans la peau des victimes. C'est pas du tout un livre politique, c'est pas du tout un livre... polémique. Oui, je me suis mis dans la peau des victimes qui, ce jour-là, ont vécu cet événement abominable,
hein.
Sans savoir exactement pourquoi ça arrivait, qu'est-ce qui se passait, etc.
Exactement. Bon, c'est vraiment... je pense que ce serait intéressant de lire aussi. Je n'ai pas eu encore l'occasion de voir ce livre et l'avoir en main, mais je crois que ça donne envie aussi de le lire en même temps. Mais enfin, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Et donc, je disais, il y a donc plusieurs romans qui ont été publiés. Vous avez à peu près le nom, mais sinon, sur Wikipédia, avec quelques erreurs, on le trouve quand même.
J'ai publié sous mon nom 9 romans.
Ah oui. C'est pas mal. Alors, il faut, pour un homme relativement jeune, ça veut dire que vous travaillez beaucoup. Alors, je crois, Monsieur Ferré, que nous commençons à vous connaître un petit peu. Je sais que vous adorez la musique classique, Prokofiev en particulier, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ça dans ma discothèque, du moins à la maison. Par contre, je sais que vous aimez aussi Mozart. Alors, j'ai choisi le Requiem de Mozart, et donc nous allons entendre un petit extrait avant de reprendre notre conversation.
Thank you.
Christophe Ferré, vous êtes mon invité dans les studios de Radio Grand-Ciel pour que nous parlions de votre dernier ouvrage, un roman ou thriller mystique, pouvons-nous l'appeler comme ça, La Révélation de Chartres. Pourquoi le titre, ce titre ? Je vais parler de la révélation.
Parce que Chartres est une cathédrale de mystère qui comporte beaucoup d'éléments à déchiffrer, à décoder, et que dans ce sanctuaire millénaire se cache encore un certain nombre de choses, de vestiges qu'on n'a pas encore trouvés. Et dans mon livre, l'un d'eux va révolutionner l'histoire du monde.
Ah, c'est ça. En commençant l'écriture de ce livre, que vouliez-vous nous apprendre ?
Alors d'abord, je voulais apprendre aux lecteurs qui ne la connaissent pas à découvrir la cathédrale de Chartres. Tout le monde, malheureusement, ne connaît pas ce monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc,
ah oui. Il y a longtemps.
Le monument majeur de l'art français du Moyen-Âge, c'est la cathédrale de Chartres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Donc ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'était de faire en sorte que le lecteur entre dans une histoire qui le fait trembler et qui en même temps l'émerveille. Les deux à la fois.
C'est tout à fait vrai.
Alors, je ne suis pas lecteur de mon livre, mais c'est ce que j'ai essayé de faire.
Non, c'est un peu ce que j'ai ressenti, effectivement.
Donc, c'est une jeune fille qui s'apprête à découvrir un secret qui se trouve dans la crypte, caché dans la crypte. Mais elle est menacée de mort par une secte qui ne veut pas que ce secret soit révélé parce que ça va bouleverser l'histoire des hommes. Donc, elle vit une aventure absolument effroyable parce qu'elle est à la fois pourchassée par la police qui estime qu'elle a commis des crimes impardonnables. Je révèle un petit peu ce qui se passe au
pas
début
trop,
de l'histoire.
Quand même, hein.
et elle est poursuivie par cette secte sanguinaire qui veut absolument la tuer pour qu'elle disparaisse de la surface de la Terre. Donc elle se retrouve seule face à...
un problème. Elle avait un problème.
Un problème qui la dépasse totalement.
Exactement. Alors, je pense que, bon, de toute façon, les lecteurs vont découvrir tout ça. Et puis, tout à l'heure, on en parlera encore un peu. Mais je voulais dire que par votre livre, je pense que vous avez appris énormément de choses aux gens. Et tout à l'heure, je disais que vous étiez normalien de formation et donc professeur durant quelques années, je pense. En écrivant en général et en particulier pour La Révélation, que vouliez-vous nous transmettre, nous apprendre en même temps et nous tenir en même temps en haleine et en angoisse à la fois, puisque vous vouliez nous apprendre à mieux connaître ce vestige extraordinaire qu'est la cathédrale de Chartres.
La cathédrale de Chartres, c'est un sujet absolument infini. Une vie entière ne suffit pas à la connaître.
Oui.
Il y a des tas d'historiens que je n'ai pas le temps de citer ici qui ont consacré leur vie à ce monument, hein. Il n'y a pas beaucoup de monuments comme ça sur Terre, hein. Donc moi, j'apporte ma pierre et j'essaye d'initier les gens à quelques aspects architecturaux de la cathédrale. En même temps, dans mon livre, je révèle des choses dont on a peu parlé.
Absolument, absolument.
Dont on a peu parlé, et je vais vous donner un exemple très concret. Sur le grand vitrail de la façade occidentale se trouve gravé dans le verre la profession de foi islamique, celle qu'on trouve sur le drapeau actuel de l'État islamique, celui qu'on trouve aussi sur le drapeau de l'Arabie saoudite. Ouais. Donc, cette profession de foi islamique est apportée à l'enfant Jésus par les rois mages.
Ouais.
Voilà. Et c'est écrit en arabe.
Oui.
C'est écrit trois fois en arabe sur ce grand vitrail du XIIe siècle qui est le vitrail majeur de l'art roman. Alors pourquoi est-ce qu'il y a la profession de foi islamique à côté de l'enfant Jésus ? Eh bien, pour le savoir, il faut lire mon livre, parce
exactement.
Que moi, j'ai trouvé la réponse.
Vous avez
et
trouvé...
La réponse est, paraît-il, les historiens me l'ont dit, assez convaincante.
Ce que j'ai trouvé aussi assez étonnant dans votre livre, c'est qu'on aura dit que D'abord, très, extrêmement présente, puisque bon, c'est un livre historique, puisqu'on est dans l'histoire, dans le XIIIe siècle en particulier. Mais surtout, je trouvais qu'on est très présent dans le quotidien. Hein. Et dans notre, au début de notre émission, là, on disait que donc, vous étiez un enfant eurélien. Hein, et donc, par votre famille paternelle, vous étiez souvent présent à Élie-et-Combray. Et donc, je me demandais, en tant qu'écrivain, est-ce que c'est le fait d'avoir été enfant dans une ville telle que qui est donc Élie-et-Combray, Marcel Proust, c'est presque la même chose, où on les associe effectivement. Est-ce que ça vous a inspiré, vous a donné envie, petit garçon, de...
Ah bah moi, j'ai toujours admiré Marcel Proust, mais évidemment, c'est un immense écrivain. Je ne prétends pas... faire écrire aussi bien que lui, mais il est évident que j'ai été influencé par La Recherche du Temps Perdu, qui est une œuvre majeure dont je parle d'ailleurs dans La Révélation de Charles.
Oui, exactement, ce que je pensais d'ailleurs. Mais pour écrire donc un thriller mystique, on peut qualifier comme ça votre roman. Oui. Qu'est-ce que vous deviez savoir avant, ou quelles sont les recherches que vous deviez faire, parce que je vous assure, c'est rempli des choses à savoir, effectivement.
J'ai cherché longtemps, j'ai lu énormément de livres, j'ai travaillé avec des historiens de la cathédrale, je ne peux pas tous les citer ici, qui m'ont fait visiter la crypte, qui m'ont fait découvrir les vitraux, les portails. Et à partir de là, j'ai construit mon intrigue, en fonction de ce qu'on m'avait dit. Je l'ai raconté à ma manière. Il y a une très grande partie des éléments décrits dans le livre qui sont parfaitement exacts. Mm-hmm. Et les gens, d'ailleurs, ne savent pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a évidemment une part de fiction. On dit on ne sait pas quelle est la limite entre la fiction et la réalité.
Et c'est la liberté de l'auteur.
C'est la liberté de l'auteur, oui. Dans un thriller, il y a toujours une part de fiction. Mais quelle est la part de fiction et quelle est la part de la réalité?
La limite est quelquefois difficile on ne sait pas. Définir.
Hein. Moi-même, en réalisant le livre, je me dis, ah, mais où est la réalité, où est la fiction?
En tout cas, la révélation de Charles, le roman dont nous parlons, a un sous-titre qui s'appelle « Le secret qui bouleverse l'histoire du monde », qui nous interpelle peut-être encore plus que le titre en lui-même. Mais je pense que vous allez tous aimer à lire ça. Et donc, comme vous nous avez donné quelques éléments au sujet de l'histoire du livre, c'est vrai qu'on a déjà une petite entrée en la matière. Alors, j'espère que c'est tout ce que vous avez dit et ce que nous en avons dit tous les deux depuis un petit moment vous inciteront à vouloir en savoir plus. Et maintenant, après un nouvel extrait de Requiem de Mozart, nous allons nous retrouver avec Christophe Ferré pour essayer de découvrir la Révélation de Charles.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, au micro Elisabeth Couget. C'est en compagnie de Christophe Ferré dans notre émission Histoire d'en savoir plus que nous vous présentons le dernier livre de mon invité, La révélation de Chartres. Alors avant la pause, vous avez fait un court résumé de votre livre et dont nous parlons aujourd'hui, mais serait-il possible que vous nous en lisiez aussi un petit peu ?
Bien sûr, je vais lire le prologue.
Merci.
Cathédrale de Chartres, un soir de mai. Mary n'aurait jamais dû descendre dans la crypte en pleine nuit avec le vieillard au visage effrayant. 1 heure du matin venait de sonner dans le clocher gothique flamboyant dont la flèche a été construite au début du XVIe siècle par Jean Texier dit de Beauce. Le vieillard au visage effrayant lui avait donné rendez-vous dans le narthex sud, à l'entrée de l'église souterraine, dont il possédait la clé, après la fin des visites guidées. Pourquoi là ? Elle n'en savait absolument rien. Il aurait mieux valu qu'elle décline cette invitation. Cette promenade sous terre, dans les entrailles d'un monde qu'elle n'aurait jamais dû approcher.
Alors ce livre devrait intéresser les Chartrains et les Euryliens en même titre, car le roman non seulement nous fait découvrir la cathédrale de Chartres, mais nous entraîne à travers champs, dans le plus stricte exactitude du mot, à travers champs, et dans tout le département, et nous fournissant un grand nombre de détails sur tous les endroits touchés par votre héroïne.
Oui, je parle de l'Eure-et-Loir, un département que j'aime énormément.
Ah oui.
Châteaudun et son magnifique château. Illiers-Combray, Bonneval,
Brou,
Mêlé-le-Grenet et son église fascinante. Il y a plusieurs chapitres qui se passent à Mêlé-le-Grenet. Nogent-le-Rotrou. Je ne vais pas citer tous les endroits que j'évoque dans ce livre. Donc c'est un hommage à l'Eure-et-Loir, à la Beauce. Hein, Et même au-delà de l'Eure-et-Loir, je parle de Vendôme, je parle d'endroits qui me sont chers. Et c'est dans ce livre une espèce de chant d'amour à l'égard de ce département magnifique, qui est l'un des berceaux de l'histoire de France.
Justement, je me suis dit que ça devrait être proposé par les bureaux de touristes aussi, puisque en lisant ce livre, on est déjà imprégné de cette région, de ces ciels pommelés. On est présent dans cette jolie département.
Oui, c'est que vous le dites très bien. Cette plaine immense, ces ciels pommelés, ces champs de blé à perte de vue qui change de couleur en fonction de la saison, ces flèches d'église qu'on voit de très loin,
ouais.
Celles de la cathédrale, mais pas seulement
non, mais les autres, aussi,
les autres clochers, etc., qui sont comme des montagnes au milieu de la plaine ou comme des phares au milieu de la mer. Tout ceci a été très bien dit par quelqu'un comme Charles Péguy, dont on n'a pas parlé. Voilà, c'est une région fascinante. Hein.
Effectivement. Alors, sachant que vous êtes sportif, vous marchez, vous courez, etc., je ne suis pas étonnée de l'impression que j'avais en lisant votre livre. Comme si votre héroïne avait couru un marathon à travers les 329 pages de votre livre.
Elle se déplace beaucoup.
On
elle
est
se
fatiguée à la fin.
Elle se déplace beaucoup parce qu'elle est poursuivie. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais elle est poursuivie.
Ah non.
Elle est poursuivie par des tueurs, de jour, de nuit, sur la terre, sous la terre. Et elle ne sait pas comment s'échapper. Elle prend des voitures, elle prend des véhicules divers et variés. Mmh. Elle ne sait pas comment faire pour tout simplement ne pas mourir.
Ouais.
Et à un moment, mais je ne dirai pas comment, intervient le GIGN, parce que j'ai travaillé avec le GIGN sur un livre.
Ah oui, parce que j'étais étonnée des détails que vous donniez. J'ai dit, il faut que vous connaissiez cette...
Je connais très très bien le GIGN, et donc je me sers du GIGN et j'ai... Il y a plusieurs membres du GIGN qui m'ont conseillé.
Mmh.
Et donc, le GIGN intervient dans ce livre. Je ne dis pas comment, j'en dis pas plus, le lecteur le verra.
Ah oui. Alors, je sais que vous parcourez de grandes distances, vous marchez beaucoup à travers les sentiers, à travers les montagnes. Je voulais demander, lorsque vous marchez, est-ce que vous écrivez déjà dans votre tête un futur ouvrage ? Ou bien, au contraire, cela vous permet de vous déconnecter de celui que vous veniez de terminer ? Ou tout simplement, vous marchez ? pour le plaisir.
Je marche pour le plaisir, mais en marchant, on réfléchit beaucoup.
Oui, forcément.
On n'écrit pas en marchant.
Non, mais dans
votre
tête.
On n'écrit pas en marchant, mais on écrit quand on arrête de marcher, après un mois de randonnée dans la montagne.
Je voulais dire à propos de votre héroïne, Mary, qui est vraiment une vraie Américaine, sportive, qui n'a finalement pas peur de grandes choses. Enfin, du moins, elle est suffisamment lucide pour trouver des solutions. Vous n'avez jamais eu envie de la tuer au cours de l'écriture?
On, à chaque moment, l'auteur est dans la peau du personnage. Et moi, à certains moments, je me dis, est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce qu'il y a des moments où on se dit, elle ne peut pas s'en sortir. Son histoire est tellement terrible qu'on se dit, mais comment elle va réussir à ne pas mourir? Les chapitres sont très courts et dans chaque chapitre, il y a une nouvelle aventure qui arrive.
Il aurait été dommage, c'est une très jolie jeune fille d'après votre description. Votre livre « La révélation de Char » dont nous parlons aujourd'hui, donc paru aux éditions Salvator, est très très joliment présenté. J'ai beaucoup aimé et déjà on est dès la couverture devant nous, on est dans le XIIIe siècle. Mais pourquoi avoir choisi le portail nord, la rose du portail nord et pas celle du portail sud, d'Occident, pardon? Du portail royal, c'est le hasard.
Les trois rosaces sont magnifiques, donc on a que l'embarras du choix.
Oui.
Je parle de la rosace du portail
Occident,
nord. Je parle des deux. Du portail nord qui est la rosace dite de Blanche de Castille.
Oui,
j'en parle
ça.
Un moment.
Exactement, c'est vrai.
Après, il y a effectivement la rosace du portail occidental dont je parle aussi. Bon, j'avais le choix entre les deux. J'ai choisi celle de Blanche de Castille.
Oui. Elle est fort belle.
J'aurais pu choisir l'autre. Tous les vitraux de Chartres, de toute façon, sont magnifiques. Alors, j'allais dire, on n'a que l'embarras du choix.
Exactement.
À un moment, il faut choisir.
Le choix est très, très difficile. Êtes-vous déjà en train de travailler sur un prochain ouvrage?
Oui, absolument. Un ouvrage qui se passera en partie à Chartres aussi. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus.
Ah, bon.
Car je suis en train de travailler dessus, alors. Le livre ne préexiste pas à l'écriture.
D'accord. En tout cas, dès que vous l'aurez, j'espère bien d'avoir la primeur et de pouvoir vous réinviter
pour
en parler. Hein.
Et ce livre connaît un succès absolument énorme. J'en suis très heureux, d'ailleurs.
Mais ça ne m'étonne pas du tout. Et je crois que nous vous avons révélé un maximum de choses de ce dernier roman, dont je répète le titre, « La révélation de Chartres ». Et je vous en souhaite de bonnes lectures à tous nos auditeurs. Je leur conseille d'aller acquérir ce livre le plus vite possible. Merci Christophe Ferré d'avoir été des nôtres durant cette demi-heure.
Merci à vous.
À bientôt pour une autre émission Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
À bientôt. Scream.